Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous trouver sur Djoliba TV News et dans votre émission Le Train Littéraire. Nous sommes très heureux, vous, cher public, de vous accueillir à bord de ces tout premier train de l'année 2024. Et vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui avec, en tout cas, un invité de marque. Ce n'est jamais facile de présenter cet homme qui a été le tout premier présentateur de cette émission dénommée Le Train Littéraire. C'était dans les années 2016. Nous recevons ici, comme vous l'aurez compris, M. Robert Adama Dissa. M. Robert, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, M. Traoré.
Comment allez-vous?
Moi, je vais bien, et vous?
Ça va, alhamdoulilah. Robert, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Alors aujourd'hui, les rôles vont être inversés. D'habitude, c'est vous qui posez les questions. Et aujourd'hui, je me fais l'honneur de vous poser des questions. Qu'est-ce que cela vous fait de vous trouver de l'autre côté de l'écran, M. Robert Dissa?
Bonsoir, M. Traoré, et merci pour cette question. Avant de donner des éléments de réponse, vous me permettrez de saluer la présence en fait de toutes celles et de tous ceux qui ont bien voulu être là ce soir à l'enregistrement de ce train littéraire. Mes remerciements sincères vont à l'endroit des uns et des autres. Et j'en profite également pour saluer tous les téléspectateurs de Djoliba TV, tous les auditeurs de Radio Djoliba. Et merci à toutes et à tous, quoi. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça me fait d'être de l'autre côté du fleuve, je dirais, parce que présenter quand même, c'est quand même une partie de, c'est vraiment une partie de fleuve, c'est vraiment une traversée du fleuve, quoi. Ça me fait toujours bizarre. C'est comme si tu es dans un autre monde. Voilà, c'est comme si tu es dans un autre monde. C'est un exercice auquel j'aime bien me prêter, mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile de répondre aux questions, surtout quand on ne sait pas la capacité de réactivité de l'intervieweur. Du coup, on parle toujours avec réserve. Et là, ça va tellement vite, là, tout de suite, que moi, je ne sais même pas ce que je suis en train de vous dire concrètement. Mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas du tout facile. Voilà.
Ce n'est pas du tout facile, vous l'aurez compris. Venant d'une vedette, en tout cas des micros, venant d'un présentateur hors norme, on va dire ainsi, cela nous fait vraiment chaud au cœur. Robert Dissa, c'est une tradition dans cette émission. Et cette tradition, c'est vous qui l'avez initiée. Donc, il est de coutume d'aller à la rencontre de notre invité, histoire de découvrir avec le public qui est présent ici, mais aussi ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur Djoliba TV News, votre riche biographie, si vous nous permettez, M. Robert Dissa.
D'accord.
Ok. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est jamais facile de présenter un homme de la trempe de Robert Dissa. En tout cas, nous nous sommes efforcés de concocter quelques lignes que nous avons pu, en tout cas, avoir sur les réseaux sociaux, Google, histoire de partager avec vous justement la riche carrière de M. Robert Dissa. Alors, le M. Robert Dissa est un écrivain, il est poète, il est artiste, il est présentateur télé, il est maître de cérémonie. Et ce monsieur, il est né un certain 30 avril 1976 à Nyonon, dans la région de Ségou, c'est au Mali. Après ses études fondamentales à Molodo et Nyonon, il obtient son baccalauréat au lycée Cabral de Ségou et devient titulaire d'une maîtrise en socio-anthropologie de la faculté de lettres, arts et sciences humaines de Bamako. C'était dans les années 2000. Ensuite, il a obtenu un DUT en technique audio-prothétique de l'université de Montpellier 1 en France. Il revient au Mali et entame une carrière de professeur de français dans plusieurs établissements, lycées justement, de Bamako. C'est de ce constat, avec les jeunes scolaires qu'il forme en poésie, qu'il va se réveiller, qu'il forme en poésie, n'est-ce pas, qu'il va se réveiller son rêve de devenir, j'allais dire, poète et de ne vivre que pour la poésie. Je dis et de ne vivre que pour la poésie. Je reprends une dernière fois que de ne vivre pour la poésie. En 2008, il publie son premier recueil de poèmes intitulé « Le silence du sourire ». En 2009, il sort de son imagination un album musico-poétique « Gibraltar » et un autre encore du même genre en 2011, intitulé « Don Carilla ». Robert Adama Dissa est un ami personnel de plusieurs artistes de ce pays. Il est, on peut le dire ainsi, sans risque de nous tromper, que c'est quand même l'un des poètes les plus vus sur scène au Mali. Robert Adama Dissa, est-ce que vous vous retrouvez dans cette biographie, accompagnée de votre bibliographie, ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiterez revenir?
Non, vous avez dit l'essentiel. Hein. Ça me gêne qu'on parle de moi en ma présence. Donc déjà, c'était même trop pour moi. Donc ça va.
Ça va, mesdames et messieurs, ouais. Veuillez applaudir pour notre invité, Robert Adama Dissa. Alors, de coutume, on va parler de livres dans cette émission, sauf qu'aujourd'hui, c'est le tout premier numéro de l'émission, Train littéraire, qui, en tout cas, a l'honneur, parce que c'est tout un privilège pour nous, en tout cas, mesdames et messieurs, de recevoir Robert Adama Dissa. Alors, monsieur Dissa, si je vous parlais d'un jeudi 28 juillet 2016, on va faire un peu d'histoire.
D'accord.
Cette date vous dit quoi?
C'est le lancement du train littéraire. C'était à l'espace La Gare. Et c'était le dernier jeudi du mois de juillet de 2016. Et à l'époque, le train littéraire n'était pas une émission radiophonique, encore moins télévisée. Et c'était juste une rencontre, un auteur avec son public. Voilà. Et donc l'initiative est née, en fait, des réflexions de M. Birama Konaré, et quand même le PDG de Bintili Communications à l'époque. Radio Djouliba n'était pas né, Djouliba TV News n'était pas né. Et donc on a fait quelques émissions comme ça, sans radio, sans télé. Et quand Birama a eu l'idée de lancer Radio Djouliba, le train littéraire est devenu la première émission de Radio Djouliba. Et quand on est passé à Djouliba TV News, le train littéraire est devenu la première émission de Djouliba TV News. Et effectivement, le premier train a démarré le 28 juillet 2016.
Alors, peut-on savoir d'ores et déjà, hein, puisque le train suit ce concept que vous avez, en tout cas, comme je suis bien dit, initié, à savoir un auteur avec son public. Et qui était cet auteur et quel était le titre de cet ouvrage en son temps?
Le tout premier,
oui.
C'était l'ancien ministre Ndiaye Ba qui a écrit la saga des rois maudits. Voilà, c'était Ndiaye Ba, la saga de Oura Maudit. Il a été le tout premier auteur à bord du train littéraire que j'ai eu, bien sûr, tout l'honneur de conduire. Et il faut qu'on répète, il faut qu'on rappelle également au public qu'en un premier temps, c'était une présentation alternée entre Ramata Diaouré et moi.
Actuellement membre du CNT.
Actuellement membre du CNT, okay. Mais le tout premier train, c'est moi qui l'ai conduit. Le second, c'est fut Ramata, le troisième, moi, le quatrième, Ramata. Bon, ensuite, Ramata est passé à autre chose et moi, je continuais avec le train. Voilà, jusqu'à vous.
D'accord. Alors, on va revenir.
J'aimerais dire au public d'applaudir également ces jeunes et brillants présentateurs du train littéraire. Voilà.
C'est tout un honneur. J'avoue que ma formation, Robert Dissa, a beaucoup contribué à ma formation. Tout l'honneur vous revient, cher maître.
Merci.
Si je me permets. Alors, quand on parle d'une initiative comme le train, il y a quand même des souvenirs. Peut-on savoir vos plus beaux souvenirs dans cette aventure?
Dans l'aventure train littéraire,
mais...
oh, je dirais que chaque train est un voyage inoubliable. Chaque train fut pour moi un voyage inoubliable, un voyage qui m'a permis d'aller en fait dans le monde d'un auteur et d'aller dans l'univers d'un ouvrage. Voilà. Un monde d'un auteur et l'univers d'un ouvrage. Et dire qu'il y a un train qui m'a marqué plus que d'autres, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Franchement, non. Mais il y a eu quand même des trains spéciaux où j'ai pris 2, 3, 4 auteurs. Par exemple, lors des rentrées littéraires, la demande est tellement forte. Mais moi, je suis sûr et certain que février, oui, le mois prochain, vous ne pourrez pas prendre un seul auteur parce que c'est la rentrée littéraire. Le Mali sera inondé d'auteurs qui viennent un peu de partout et chacun voulant passer quand même à bord du train littéraire, ça va être très compliqué pour vous d'avoir un seul auteur parmi tant d'autres. Donc, quand on a l'habitude de prendre un seul auteur et que du coup, alors on prend 2, 3, 4 auteurs, c'est quand même magnifique. Et quand on regarde souvent certaines pointures qu'on comprend dans la littérature, on s'est dit, waouh, c'est bien dans la carrière d'un présentateur d'œuvres littéraires d'avoir comme client du jour tel auteur, tel éditeur ou telle éditrice. C'est vraiment fabuleux. Je n'ai pas un souvenir particulier parce que tous les souvenirs que j'ai à bord du train littéraire sont tout simplement tous magnifiques et merveilleux. Et il n'y a pas eu un seul train que j'ai eu à regretter.
D'accord, tous les souvenirs sont magnifiques, ils sont fabuleux. Alors on sait très bien que dans la vie, tout n'est pas que rose. Il peut souvent avoir des zones d'ombre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des regrets, en tout cas, dans cette aventure aussi?
Des regrets dans l'aventure, Cela est dû au concept, hein, le concept translittéraire. Le concept est conçu en sorte que, au début, on aurait aimé faire vraiment des voyages, mais entre-temps, Covid est passé par là. Entre-temps, avant Covid, il y a eu des contestations électorales ici au Mali en 2018. Il y a eu Anta-Abana ici. Tout ça a trouvé que le train existait déjà. Il y a eu Covid. Après Covid, il y a eu ce que tout le monde sait. Bref, le monde n'a plus jamais été paisible. Sinon que, au début, c'était ça l'idée. On voulait vraiment faire du voyage et à bord du train, si possible. Ou en tout cas, sur tout au long des rails, quoi. Même si on prenait un auteur qui n'était pas, par exemple, de la zone de Kai ou de Magna ou de Kita, etc., on pouvait quand même trouver un point le long des rails ou alors tenir l'émission train littéraire avec cette personne-là. Mais bon, on n'a pas eu les financements à l'époque pour faire ça. Moi, j'aurais souhaité que vraiment vous ayez cette chance-là, vraiment de faire vraiment de voyages avec les écrivains, aller à la rencontre en fait du grand public et jusque dans les confins du pays, que tout ne se limite pas à Bamako seulement. Ça, quand même, je regrette, quoi.
D'accord. Ouais. Ok, ce sont donc là les quelques regrets. Et nous tâcherons, M. Dissa, nous vous le promettons, de travailler là-dessus afin que notre rêve puisse en tout cas se concrétiser.
Ouais.
Ce serait promis avec, bien entendu, l'accompagnement du PDG, comme vous l'avez si bien rappelé. C'est quelqu'un
et pas seulement de lui, de l'État,
des autorités, des partenaires.
Il faut lancer, il faut en profiter pour lancer
on
un appel aux sponsors, aux partenaires et tout. Les trains en ont besoin.
D'accord.
Parce que c'est la seule émission quand même qui a une si longue durée et aussi permanente, parlant du livre et des écrivains au Mali. La seule aujourd'hui. Il y a eu quand même après quelques émissions littéraires, mais le train est de loin l'émission la plus ancienne et la plus et régulière.
D'accord. Ok. Voilà. Cela nous réconforte dans notre en tout cas position. Alors Robert Dissa, certainement une toute dernière question par rapport en tout cas à votre aventure avec le train littéraire. Aujourd'hui que vous... Quel est votre regard, en fait, depuis votre départ? Alors, comment trouvez-vous, en fait, le train littéraire aujourd'hui? Quel est votre regard, en fait, là-dessus?
Alors, mon regard, c'est un regard de satisfaction que je jette sur le train. C'est vrai que quand je partais, pour vous, l'enjeu était de taille. Les défis étaient énormes, mais comme vous le savez, personnellement, je savais que vous alliez pouvoir tenir. Et imaginez que vous, quand même, vous me succédez et votre premier train, déjà, vous n'étiez pas avec un seul auteur. Je me souviens, vous n'étiez pas avec un seul auteur. J'étais là ce jour. Vous aviez deux auteurs. Toute première émission du train littéraire que vous aviez à présenter, ce n'était pas avec un seul auteur, c'était avec deux. Ça, c'est les dimensions du train les plus compliquées à gérer. Voilà. Parce que c'est pas cette dimension qui est régulière, qui est permanente. La dimension régulière et permanente, c'est un seul invité. Mais là, vous commencez avec deux et déjà ce jour-là, vous avez assuré et moi, je n'avais plus de crainte. Et à chaque fois que je suis le train littéraire, plusieurs fois, il m'est arrivé de vous appeler vous-même, d'appeler Fatmata Keita, qu'il faut vraiment saluer parce que dans l'aventure du train littéraire, longtemps, c'est elle qui avait été à la programmation des auteurs. Bintili, Lagar, c'était pas la pirogue à l'époque, était dans la production et moi j'étais dans la présentation. Voilà les trois éléments, la logistique, l'organisation, la programmation et la présentation. Donc Bintili, Lagar, c'était la production, la logistique. Fatmata Keita, c'était la programmation et moi c'était la présentation. Et franchement, depuis plus d'une année, je suis tout simplement fier en fait de ce qu'est devenu le train littéraire aujourd'hui. Je l'applaudis, le train littéraire, je m'en tape la poitrine. Merci pour tout ça.
Merci. Merci de nous accompagner avec des encouragements. Alors, regardez ça, c'était en tout cas la première phase de cette émission. Nous allons aborder la seconde phase, Monsieur Robert Dissa, on va le présenter, Robert Dissa, poète. Dissa le poète.
D'accord.
Alors, je le disais dans votre biographie, vous ne vivez que pour la poésie. Le mot n'est pas fort.
Non, pas du tout.
Si le mot n'est pas fort, peut-on d'ores et déjà savoir vos premiers contacts, M. Robert Dissa, avec la poésie?
Mon tout premier contact avec la poésie date des années 85-86. J'avais à peine 10 ans. Voilà, parce que moi, j'ai fait quand même partie de l'école fondamentale dans une école catholique, la mission catholique de Nyono. et les activités théâtrales étaient très très développées dans mon école à l'époque. Et donc, moi je me souviens, lors d'une fête de fin d'année, alors il fallait faire le montage poétique d'une œuvre de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Et dans ça, il fallait jouer quand même un personnage, un rôle, tu vois, celui de l'âne. Et donc dans toute l'école, il n'y avait personne qui était prêt à jouer ce rôle de l'âne. Personne n'était prêt. Parce qu'à l'époque, quand on jouait dans le théâtre et qu'on jouait un rôle, eh bien, durant toute l'année qui va suivre, c'est ce surnom-là. Par exemple, quand tu joues le rôle de l'âne, tout le monde va t'appeler l'année suivante. L'âne. Voilà, quand tu joues le rôle du voleur, tout le monde va t'appeler voleur. Voilà, jusqu'à ce que tu changes de rôle. Donc, personne ne voulait prendre le rôle de l'âne. Moi, j'ai pris le rôle de l'âne. Mais non seulement j'ai pris le rôle de l'âne, le professeur m'a permis alors de faire celui qui introduit les récits. Voilà, un mâle qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, tu vois. Donc cette introduction, le prof me l'a donnée. Voici mon tout premier contact en réalité avec la poésie. Mais à l'époque, nous on ne l'appelait pas la poésie, nous on l'appelait la récitation. Ça s'appelait la récitation, ça ne s'appelait pas la poésie. Et donc il fallait faire des gestes et tout. Mais la récitation, j'aimais la récitation. Voilà, moi j'aimais beaucoup la récitation et ça m'a marqué à vie. Voilà. Donc, s'il s'agit de mon contact avec la poésie, ça, je peux vous le dire comme ça. Mais ce qui a fait que je suis resté dans la poésie, c'est une double histoire.
Alors, peut-être qu'on va en venir. Cette passion, monsieur Robert Dissa, pour la poésie, parce que quand j'ai vu dans la biographie, monsieur ne vit que pour la poésie, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu bien basculer dans sa vie pour avoir une telle passion pour la poésie?
Oui. Parce que quand effectivement, vous avez certainement trouvé ça sur Wikipédia, c'est suite à une interview que j'ai donnée au CCF. Voilà, je crois que c'était lors d'une sortie d'un livre de Fatmata Keita. Donc, il y a un journaliste qui m'a posé la question, voilà, exactement que vaut la poésie pour moi. Je dis, je ne peux pas vivre sans la poésie. Et c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. C'est au sens propre comme au sens figuré. D'abord, au sens propre. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas passer 24 heures, malgré mon occupation, sans écrire au moins une strophe. Ceux qui me suivent sur Facebook, par exemple, savent que chaque jour, pratiquement sur Facebook, il me faut griffonner un petit truc, quoi. Voilà, il me faut dire un petit mot gentil aux gens, il me faut quelques vers d'amour, etc. Ça, c'est vraiment le poète. Mais autre chose, la poésie, pour moi, c'est ce qu'il y a de beau sur cette terre. Et moi, je suis un fan de beauté. Et quand je dis je suis un fan de beauté, mais c'est vraiment le cas, quoi. J'aime regarder les jolies femmes, j'aime regarder les jolies formes, j'aime les jolies tresses, j'aime les jolies démarches, j'aime les jolis endroits, j'aime les belles voix, j'aime la grâce, j'aime les jolies fleurs, j'aime tout ce qui est beau. Et tout ce qui est beau me plaît. Et moi, je rends hommage à tout ce qui est beau. Je rends hommage à la beauté.
Et qu'est-ce que vous répondez?
Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas vivre sans la poésie, ce n'est pas possible.
D'accord, vous ne pouvez vivre sans la poésie et tout ce qui est beau vous rend fier. Ça contraste un peu. Vous êtes quand même professeur de français. Les poètes parnassiens, tout ce qui est beau est laid.
Ouais. Oui. Les parnassiens l'ont dit. Et surtout que moi, je ne suis pas parnassien. Et heureusement que l'histoire de la poésie s'est vite chargée des parnassiens au bout de l'air. Vous verrez que de tous les courants, le Parnasse n'a pas fait long feu. Parce que ça ne peut pas faire long feu. On ne peut pas se défaire de l'être humain qu'on est. Ce n'est pas possible. À quoi ça sert cette photographie poétique de la nature? Le Parnassien ne va pas te dire que cette salle elle est jolie. Le Parnassien va te dire que les murs sont peints en jaune, les lumières sont fortes. Bref, comme du journalisme, quoi. Mais on s'en fout de ça. Nous, poètes, on ressent. On ressent des choses et on veut les transmettre. Maintenant, il se trouve qu'il y a des âmes insensibles, entre guillemets, qui ne les reçoivent pas tels que nous, on les vit. Mais personne n'est épargné quand il s'agit de la sensibilité, quoi. Aujourd'hui, tu n'es pas sensible face à une situation dramatique. Mais il faut prier le bon Dieu pour que ton tour n'arrive jamais. Sinon, ce jour-là, tu comprendras.
C'est que c'est que la sensation. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous faisiez référence à Jean de La Fontaine, notamment son texte intitulé « La peste ». Ça me fait penser aussi, en tout cas, à nos petites notes de la 9e année. Alors, peut-on savoir, M. Robert Dissa, au-delà de Jean de La Fontaine, y a-t-il des poètes qui vous ont des écrivains, sinon des poètes, pour être plus précis, parce que vous réclamez poète, vous nous êtes jamais décrit comme étant un journaliste. Je pense qu'on va, on va en venir tantôt. Alors, ces auteurs, ces poètes qui vous ont le plus marqué dans votre vie.
Ah oui. Je vous disais que le fait que je suis resté dans la poésie, que c'est une double histoire. Ok. C'est une poétesse qui m'a surtout fait savoir que je ne dois pas enterrer la poésie. Oui. Une petite fille à l'époque, nous sommes dans les années 1995-96, une toute petite fille qui sort à la télé lors des lors des Jouvent Chouchou à l'époque. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour saluer Alioune Franjaï. Une petite fille sort et puis qui dit au Mali tout entier, laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à fendre ma bouche. Cette petite fille, elle est devenue par la suite.
Sourire, vous, donc ça veut dire que vous reprochez quelque chose déjà,
non, mais c'est une petite fille, mais j'ai adoré.
Peut-être à l'époque.
Parce qu'on n'était pas à la même école. Ah oui. Mais l'année suivante, Dieu faisant, on se retrouve dans la même classe. Voilà, on se retrouve dans la même classe. Et ça se trouve qu'au même moment, elle, plutôt, s'est découragée. Elle dit, mais attends, toi, tu nous fais venir dans la poésie. C'est toi qui veux partir, non, pas question. Tu nous as fait venir. Ben, on est collé, cimenté, on va mourir dedans. Tu ne vas pas, nous aussi, on ne va plus. On reste là, tout le monde. Voilà, personne n'y va. Et cette petite fille, elle est devenue par la suite, quel auteur, hein? Elle a publié presque tous les genres littéraires, du roman, de la poésie, des essais. Hein? Et elle a fait de la poésie tout ce qu'elle veut, poésie avec photo, poésie avec musique. Hein? Le seul genre littéraire auquel elle n'a pas touché, je crois que c'est ça reste les théâtres, voilà, les drames.
Oui, à vous entendre parler, je me fais déjà une idée de la personne dont vous parlez. J'ai déjà une idée, hein, parce que ça me fait le portrait robot de la personne. Est-ce que ce n'est pas la seule poétesse sous-régionale qui a aussi fait, qui a son actif, en tout cas, on va dire ainsi quoi, comment j'appelle encore, au bout de la, aidez-moi, une trilogie, voilà, justement,
à son actif. Elle est la deuxième personnalité littéraire malienne, après Massamaga Diabaté, auteur d'une trilogie.
En tout cas, pour les femmes, elle est quand même la première femme.
Non, mais de tout sexe confondu au Mali. Oui. Voilà, en tout cas, elle est la deuxième personnalité littéraire malienne, auteur d'une trilogie. Et il y a pas une troisième d'abord, que je sache.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, veuillez applaudir aussi Madame Manyare Fatmata Keïta, puisque c'est d'elle dont il est question. Moi, je ne peux pas me permettre de l'appeler petite fille. En tout cas, c'est une grande dame, une très grande dame.
Non, en 96, elle était une petite fille. Maintenant, elle est devenue une très grande dame.
Je vous le concède, Monsieur Robert Adama Dissa. C'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Alors, ceci dit, Monsieur Robert Dissa, on va essayer de rentrer un peu dans la poésie de Robert Dissa. La technique, si vous nous permettrez. Alors, il y a quand même une petite surprise que nous allons faire, en tout cas, au public présent ici.
Pour le pire, jamais pour le meilleur. En Afrique, pour les femmes, telle est la devise du mariage. J'entends encore ces mères traduire la polygamie en Bambara, s'adressant très jeune épouse. Ton mari dit qu'il mariera d'autres femmes s'il en aura les moyens. Je la vois encore, cette jeune épouse. Je vois encore pâlir son visage angélique. J'entends encore sa voix cassée. Je l'entends encore. La femme résignée d'Afrique, l'épouse idéale d'Afrique qui répond: oui, je suis d'accord. Les mères par les liens sacrés du mariage unis les deux époux. L'imam les bénit. La foule des parents et des amis applaudit. Pour le pire, jamais pour le meilleur. En Afrique, pour les femmes, telle est la devise du mariage. Une année, une seule année de mariage suffit à la bonne épouse de faire ses preuves. Sans enfant, expire ses délais de grâce. Automatiquement, absolument, elle est coupable. Coupable de lèche majesté. En tout cas, sa peine n'en vaudra pas moins. Les maris doivent divorcer, se remarier dans le meilleur des cas. Sa maman brûlante d'impatience de tenir dans ses bras son petit mari ou sa petite co-épouse. Et si les maris étaient stériles, impossible. Dans le meilleur des cas, pensera-t-on à cette éventualité? Dans les pires, la femme doit se résigner, accepter son sort. Dieu l'aura voulu ainsi. La soumise femme d'Afrique, grenade dans les rizières, un enfant par les bras, un autre au dos, un autre encore dans les ventres, revient à la maison, sans repos, préparé à manger, laver les ustensiles et les linges, préparer encore la nuit, se laver enfin, non pour se reposer, mais accueillir, entretenir un mari qui en mariera d'autres s'il en aura les moyens. Telle est la volonté de Dieu, en tout cas celle des hommes, celle de la société tout entière, pour que soient bénis les enfants. Pour le pire, jamais pour le meilleur. En Afrique, pour les femmes, telle est la devise du mariage. La bonne épouse d'Afrique est celle dont les enfants réussissent. Ceux de l'insoumise n'appartenant qu'à elle seule, n'accouchant que des souris. Nous autres chômeurs, voleurs ou assassins, nous autres aveugles, sourds ou muets, nous autres souffrant de tout autre handicap, nous autres parias, intouchables parce que pauvres, sommes-nous tous des fils d'insoumise? Cette femme-là, ma sœur, cette femme d'Afrique, qui doit se contenter de voir son mari, deux nuits sur quatre ou six et même sur huit, cette femme-là, c'est déjà ta mère, c'est déjà ta sœur, c'est toi-même un jour. Cette femme-là, mon frère, cette femme d'Afrique, ridiculisée, battue, répudiée sans frais, cette femme sous le soleil, dans de durs labeurs pour que tu sois béni. Cette femme-là, mon frère, c'est déjà ta mère, c'est déjà ta sœur, c'est ta propre fille un jour. Mes frères, mes sœurs, vous qui ferez les hommes de demain, au moins faites écrire dans nos codes que pour les femmes, la devise du mariage est toujours pour le pire, jamais pour le meilleur. Là, vous serez meilleur, car ainsi votre devise pour le mariage ne sera pas un slogan.
Voilà. Toujours pour le meilleur, pour le pire, j'allais dire, jamais pour le meilleur. En tout cas, un beau poème, hein, Gibraltar, M. Robert Damalissa. Alors, parlez-nous un peu de l'initiative de Gibraltar. Comment est-ce que c'est venu, de composer un poème dénommé Gibraltar.
Gibraltar, je l'avais d'abord écrit autrement. Je l'avais d'abord écrit autrement à Gibraltar. Je l'avais écrit « L'étranger, c'est vous ». Et j'ai un ami qui est professeur de français, Idrissa Traoré. On l'appelle Jazz. Ça fait longtemps que je ne le vois pas. En tout cas, s'il nous suit, il est salué ici. Peut-être que vous avez connu Jazz.
Il était au lycée du Progrès, si je ne m'abuse.
Exactement, au lycée du Progrès. Il enseignait également au lycée Biya. Je l'ai connu quand il était au lycée Biya. On est dans les années 2002-2003, déjà, quand je le connaissais. Et donc, j'ai écrit « L'étranger, c'est vous ». Parce que moi, j'ai eu toujours l'impression au Mali qu'il y a certains Maliens qui sont là, mais qui vivent au Mali comme des véritables étrangers. Et tellement qu'ils ne sont pas intégrés dans la société malienne. Et pourquoi? Et pour cause? La seule cause, juste parce qu'ils sont démunis, ils sont pauvres. Nous sommes une société, mais qui exclut les pauvres, Omar. Il faut qu'on le dise. Donc, j'ai dit « L'étranger, c'est vous ». Pas nous, les pauvres, c'est vous, l'étranger. Et donc, Jazz, il me connaît, il dit, mais Robert, moi, je veux que tu me reprennes ce poème-là. Mais cette fois-ci, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Mais qu'est-ce qui m'avait inspiré déjà, L'étranger, c'est vous? C'était un reportage d'envoyé spécial sur ceux qui partaient par la mer en Europe, voilà, de façon clandestine, et qui mouraient sur le Sahara, etc., dans le détroit de Gibraltar à l'époque, c'était par là qu'il passait. Donc, je me suis mis à l'aise, comme Jazz me l'a demandé. Et donc, j'ai écrit Gibraltar, je me suis laissé aller. Je crois que c'est mon poème le plus long, parce que Jazz m'a dit de me laisser aller, quoi. Et donc, je me suis laissé aller. Et quand j'ai montré ça à Jazz, il a apporté ses corrections. Là, j'étais au lycée Biya déjà, j'avais la pièce. que j'avais déjà écrite depuis les années, que j'avais fini d'écrire depuis les années 2003 déjà. Et donc, je viens au lycée La Lanterne, dans les années 2004-2005. Et puis, on fait un maxi jeune et j'encadrais les jeunes pour les poèmes et tout, tout, tout. Mais là, les gestuels qu'il fallait pour Gibraltar, le ton à certains moments donnés, le rythme à certains moments donnés, j'ai beau essayer de donner ça aux élèves, personne n'arrivait vraiment à me rendre ça sur scène comme je voulais. Moi-même, pendant les répétitions, je montais pour leur montrer. Ils ont essayé en vain, ils n'arrivaient pas. Alors, mon oncle, à l'époque, qui était quand même le contrôleur général du lycée La Lanterne, qui est toujours le contrôleur général du lycée La Lanterne, tonton Fassa me dit, mais Robert, je veux que toi-même, le jour de Maxi Jeune, là, que toi-même tu fasses ça. Et non, maintenant, ça c'est fait pour les élèves. Je dis, non, mais Robert, il faut le faire. Je crois que parmi les plus belles choses que j'ai faites dans ma vie, cette décision, elle fut capitale pour le reste de ma carrière. Parce que là, j'ai écouté l'oncle et je suis monté sur scène en plein maxi. Et mais ça a créé une sensation mais incroyable. Tout le monde pleurait en plein maxi jeune. Et donc, dès le lendemain, les radios, l'Ortem, que ce soit, comment dire, Jouvence, que ce soit Samedi Loisir, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'émissions à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de télé. Il n'y avait que l'Ortem d'ailleurs. Et il y avait les radios. Tout le monde m'a fait appel. Et en réalité, je peux dire que c'est à partir de là même que ma carrière de poète a été vraiment lancée. Donc, Gibraltar, c'est comme ça. Voilà. Voilà comment ce poème-là m'a amené vraiment au devant de la scène en tant que poète.
Au-delà de Gibraltar, hein, M. Robert Adama dit ça, j'ai aussi découvert un autre poème très intéressant. Évidemment que tous les poèmes, en tout cas, sont intéressants les uns comme les autres. Mais évidemment que jamais l'un sans l'autre.
Ouais.
Alors, quand je l'ai lu, j'ai quand même eu l'impression que vous parlez d'un destin inévitable.
Oui.
Il s'agit de la séparation. Elle a été toujours douloureuse, cette séparation.
Oui. En fait, jamais l'un sans l'autre. Omar, j'irai un jour de ce monde. Je te laisserai là. Mais ce qui est sûr, tu me rejoindras. Ça, c'est clair. Donc, Ntita Kito, d'une certaine manière. Il n'y a que quelques jours, quelques mois, quelques années qui vont nous séparer, même en réalité. Même si c'est un siècle. Même si c'est un siècle, même si c'est un millénaire. Ntita Kito, en fait, c'est jamais l'un sans l'autre. Tout qu'on fait, il y a ces grands rendez-vous qui nous attendent tous. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a ces grands rendez-vous qui nous attendent tous. Maintenant, jamais l'un sans l'autre, c'est quand même un poème qui parle du destin cruel, mais inévitable, de tout amour. Quand je dis tout amour, c'est entre un père et son enfant, c'est entre une mère et son enfant, c'est entre des frères, c'est entre des sœurs, c'est entre un copain et sa copine, c'est entre un homme et sa femme, c'est entre des collègues. Il n'y a pas, en fait, une seule relation au monde qui ne finit pas un jour, d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que j'ai dit dans ce poème-là, rire ensemble, pleurer ensemble, mourir seul. La vie, tel un immense fleuve, nous jette tôt ou tard dans la mer, de la mer solitude. On est tous condamnés à vivre cette solitude le temps qu'on vit. Ou alors, à l'infliger aux gens qui nous aiment. Voilà. Soit ceux-là qu'on aime vont partir et on va rester dans leur nostalgie. Et inconsolable. J'ai perdu ma maman. Personne ne peut me consoler. Moi, j'ai perdu mon tout premier enfant. À 1 an et 3 mois, personne ne peut me consoler là-dessus. Je suis resté nostalgique d'eux. De la même façon, ceux qui m'aiment, ben un jour, je vais leur infliger cette nostalgie-là. Donc, j'en profite seulement pour dire que les méchants de l'histoire, ainsi que leurs victimes, s'en iront tous un jour de cette terre où nul n'est éternel. Lavera ton cadavre livide. Qui achètera ton linceul? Qui te porteront au cimetière, qui creuseront ta tombe, ceux que tu as aimés ou ceux dont tu as brisé et la vie et les rêves. Pauvres mortels, inspirons-nous de la mort et sémons l'amour autour de nous, chaque jour, partout sur la terre, afin que germe le bonheur éternel. À mon avis, savoir qu'on meurt un jour et être méchant, c'est n'avoir rien compris de l'existence.
Mesdames et messieurs, merci d'applaudir pour Robert Adama Dissa. très émouvant, jamais l'un sans l'autre. Ça me fait penser à un titre de votre acolyte présente ici avec nous, Fatmata Keita. Ce n'est jamais fini aussi.
Ah oui, ce n'est jamais fini. Tout début naît d'une fin. Et toute fin, c'est encore un autre début. Et surtout quand ça sort de sa plume à elle, eh bien, chaque phrase est un roman. Chaque mot est un roman. Et récemment, on causait. Elle a dit quelque chose qui m'a inspiré. Je lui ai vite envoyé quelques deux ou trois vers. Mais non, mais Robert, attends, je t'accompagne là-dessus. Et donc, elle prend les relais direct. Trois vers, je lui ai envoyé. Elle m'envoie des vers, je lui envoie des vers.
La connexion,
souvent, on peut écrire trois, quatre pages comme ça, hein, des fois, à l'improviste. Mais tu auras l'impression que c'est un seul auteur qui a écrit. Oui.
Oui, ça, cela s'appelle l'automatisme.
Merci ma petite sœur.
Ce qui est sûr, Fatmata aura son temps de parole et va réagir, monsieur Robert Adama.
Elle ne va pas me rater, il ne faut pas lui donner la parole.
Évidemment qu'elle va avoir son temps de parole. Alors, ceci dit, Robert, rapidement, nous allons aller à la troisième phase de cette émission. Robert Dissa, le plus usé.
Oui.
Ça fait sourire, Fatmata Keita. Alors, quand, oui, plus usien, Nietala est là, hein, c'est quand même le coffret, même en dormant à 3h du matin, on me réveille, laissez-moi parler, ça sonne comme des refrains dans ma tête.
Ouais.
Vous l'avez rappelé quelques vers tout à l'heure. Alors, Robert Adama dit ça, plus usien, c'est quoi la plus usien en fait?
Bonne question. Vous aviez dit, vous avez répété, style poético ou bien musico-poétique, la musique. On parlait tout de suite de Gibraltar. Alors quand j'ai fait Gibraltar et quand l'ORTM a commencé à m'inviter, donc les gens, quand ils suivaient à la radio les déclamations de Gibraltar, les gens demandaient vraiment comment faire pour avoir ça. N'oublions pas, hein, on est dans les années 2007, la technologie n'était pas aussi développée que ça, les radios ne pouvaient rien enregistrer, hein, à l'époque. Voilà. Même les télés, si ça enregistrait, il fallait que ça sorte avec les grosses cassettes, voilà, etc. Ou bien les CD et autres. Donc, ce n'était pas évident. Donc, on s'est dit quoi à l'époque? Par l'expérience, j'ai vu que une fois que le poète ou n'importe quel poète montait sur scène, que ce soit au palais, que ce soit à la cité des enfants, que ce soit au CICB, que ce soit à Babemba, partout où j'ai joué, partout où j'ai vu des poètes sur scène, il y a toujours un seul son courant qui les accompagnait. Un seul son courant qui accompagne un poète qui est là avec rage, le même son qui accompagne un poète qui est là pour s'adulciner. Je dis non, il y a un problème. Il y a un poète qui est là qui veut insulter tout le monde. Il y a un autre qui est là qui veut dire à tout le monde merci. Et c'est la même musique qui accompagne les deux. Je dis non, non, non. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Donc, dorénavant, il faut que les musiques en dessous, alors, ils reflètent quand même la valeur émotionnelle des textes. Moi, mon référent en poésie, vous posiez la question à un moment, les poètes qui m'ont marqué, c'est elle seule qui m'a marqué en tant que poète. Fatmata Keita est la seule qui m'a marqué en tant que poète dans toute ma vie. Les autres, je les ai enseignés. Mais marqué, c'est Fatmata Keita, c'est pas devant elle, je l'ai dit, même à son absence. Donc, quand j'ai eu cette réflexion, je suis allé la voir. Donc, c'est pour dire que dès le tout début, la plus, c'est une construction commune, elle et moi. On a mûri ensemble. Et donc, elle a dit, pourtant, Robert, ton constat, il est juste. Mais comment on va faire? C'est comme ça qu'on a commencé les réflexions. On s'est dit, bon, en ce moment-là, il faut que nous aussi, on intègre l'orchestration. Parce que s'il y a les musiques sont là, elles ne sont pas faites. Nous, nous sommes en train de nous adapter aux musiques. Maintenant, on va changer de paradigme. Maintenant, il faut des musiques adaptées à nos textes. Et c'est là qu'on a lancé notre groupe. Bon, c'est vrai que... Elle n'aime pas qu'on la mette dans ce lot, hein, dans ce lot musique de la chose. Parce que pour la petite anecdote, quand son premier clip est sorti, À Figuera, il y a des gens qui l'ont appelé. Ah, Fatmata, Ambi qui a donglé, là, j'ai donglé, j'ai
Et là, elle n'aime pas.
Et ça, elle n'aime pas du tout. Et le fait que les gens disent qu'elle est donglé. Donc, en réalité, c'est ça, elle ne veut pas être du tout dans l'aspect musical de la chose. Donc, moi, elle m'a laissé m'occuper de ça. Donc, j'ai regroupé des artistes, des musiciens, et on avait un leader, un maestro, Abba Diop, voilà, qui a fait tous nos studios. Et donc, nous, lui, il est ingénieur. Hein, il est ingénieur également. Et donc, du coup, quand il lit un texte, quand Abba lit un texte, et quand on déclame devant lui, il sait, tu vois, le type de musique qu'il faut en dessous. Voilà. Donc, en un premier temps, c'était pour nous émanciper, alors, des sons. Parce que tout était cora. Donc, on s'est dit, mais non, pas forcément. Les pianos, ça peut faire. Les balafons, ça peut faire. Poser sous des beats reggae, hein, des beats rap, etc. Moi, j'ai de ces plusiques que pour certains, c'est du rap. Voilà. Donc, pour vous dire que donc, la plusique, c'était d'abord ça. Adapter les musiques qui accompagnent les poèmes, adapter ces musiques-là au poème et non l'inverse.
D'accord, donc, c'est là reviendra. Allez-y.
Rapidement.
Okay.
Autre chose, la plusique. En plus de la musique hein, qui est dessous, la plusique, c'est aussi. Tant qu'il y a la possibilité de faire accompagner les textes par des chansons qui ont fait date dans la musique malienne. Voilà. C'est pour ça que dans certaines musiques, vous allez voir que des artistes chantent pendant que nous, on parle. Voilà.
D'accord. Donc, cela reviendrait à dire, M. Robert Adamandissa, que la musique, c'est venu, en tout cas, pour essayer hein, de combler un vide.
Un vide.
Parce qu'on avait quand même l'impression que, malheureusement, nous avons un public qui ne lit pas. Alors, en essayant d'adapter la poésie à la musique, ce serait une autre façon d'aller à la rencontre des auteurs dans ton véhicule. Tu peux mettre le CD-ROM, parce que c'était des CD,
des CD
que tu pouvais écouter. Et là, tu as une double sensation. Le son de la cora, en tout cas les instruments qui accompagnent la voix, sont là, mais aussi le poème. Alors, est-ce que c'était ça, en fait, l'initiative de combler un vide?
Oui, c'était le troisième argument pour lancer la musique. C'était amener les gens à avoir accès à leurs poèmes sans arrêter de travailler. Parce que tant que c'est les livres ont cessé de particulier, les livres forcent les lecteurs à la solitude, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas lire un livre et saisir quelque chose à l'ordinateur, ce n'est pas possible. On ne peut pas lire un livre et manger, c'est compliqué, on est distrait. Mais avec la musique, vous avez vos poèmes, la bonne musique qu'il faut, mais vous jouez, vous faites tout ce que vous voulez. Partout où la musique, les chants, on entend la musique par-ci par-là, la musique peut être jouée. Voilà, il y a des boîtes de nuit, il y a des boîtes de nuit qui nous jouent. Voilà, il y a des boîtes de nuit à Bamako qui jouent la musique. Voilà.
D'accord. Ok, il y a des boîtes de nuit qui jouent à Bamako. Moi, en fait, rapidement, Robert dit ça. Est-ce que aujourd'hui, avec la création de musique, peut-on penser que les objectifs sont vraiment atteints à ce niveau?
Pas trop. Dans la mesure où nous, on aimerait quand même avoir beaucoup plus d'adhérents au mouvement. Voilà. Beaucoup plus d'adhérents au mouvement. C'est-à-dire que quand les Baudelaire, hein, quand les Canfou et autres se mettent à écrire des poèmes et qu'ils en fassent des plusieurs, quand les Taki Kanté, qui est quand même auteur de La face cachée de la lune, et j'aimerais qu'on l'applaudisse beaucoup. Voilà, elle vient de rejoindre le groupe des jeunes auteurs du Mali, Taki Kanté.
Très bien.
Voilà, j'espère qu'un jour, elle aura sa chance à boire du train littéraire.
On l'espère.
Je l'ai invité à venir vraiment voir ça.
On l'espère.
Voilà. Donc, imaginez que si tout ça se met à faire de la musique, mais ça va prendre de l'ampleur. Mais tant que c'est seulement Fatmata et moi, ben nous, on fait ce qu'on peut.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vraiment une invitation à leur endroit mais de nous emboîter les pas, de
D'accord.
faire aussi de la musique.
Très bien.
Et moi, j'ai beaucoup plus foi vraiment en ces jeunes-là quoi, qu'en nous-mêmes. Parce que la jeunesse, elle est innovante.
D'accord.
Je suis sûr et certain que quand ils vont se mettre dedans, ils vont venir avec des styles qui vont plaire à leur génération. Nous, c'est la old school.
D'accord.
Voilà.
C'est un défi hein, que M. Robert Adamandissa certainement lance à la jeunesse. Et c'est à vous, c'est à nous justement de relever ces défis. M. Robert Adamandissa, nous ne sommes pas
que seul sur ce train, on va dire ainsi, il y a d'autres aussi qui sont avec nous, ouais. Des passagers hein, qui certainement auront des choses à dire, parce que je l'ai dit au début de l'émission, d'habitude c'est Robert qui pose les questions, mais aujourd'hui les rôles vont être inversés, c'est qui est sûr, il y a des gens dans le public que vous avez certainement dû terroriser, je vais mettre le mot entre guillemets, c'est de vos plateaux qui auront aussi des choses à dire certainement.
Il n'y a qu'un seul qui peut dire ça ici. Hein.
Voilà, et elle s'avance. Voilà, mesdames et messieurs, veuillez applaudir Monsieur Robert Adama Dissa.
Merci.
Voilà. Je disais que il y a des gens certainement qui ont dû être terrorisés par le passé. Fatoumata, si vous avez des choses à dire, hein, en tout cas, c'est le temps du public.
Mais il faut compter son temps, il faut vraiment limiter
son
temps.
Non, et c'est très bien qu'on ait pris par le temps. Allez-y.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous savez, nous sommes à 8 ans du train littéraire. 8 ans aujourd'hui. Quand on commençait le premier train, je me rappelle comme si c'était hier. Et le temps, ça passe vite. Toutes les fois que je suis là, je suis émue, particulièrement aujourd'hui. Parce que j'entends parler de poésie, j'entends parler du passé, on me renvoie à des vers qui me rappellent un peu mes années de lycée, mais aussi des temps de Jouvenchaud, de forum culturel avec Baba Grazi. On a marché beaucoup de chemin. Moi, je suis là aujourd'hui pour témoigner de ça, remercier tous ceux qui ont initié ce train littéraire-là, parce qu'il fallait le créer, il fallait créer cet espace de promotion, de diffusion de la littérature. Mais quoi de plus normal aussi que d'inviter la personne qui a commencé, qui a été le premier conducteur du train, de l'inviter pour fêter le 8e anniversaire du train. Et moi, je suis très ravie aujourd'hui. Robert, c'est mon frère. Ce n'est pas mon ami, c'est mon frère.
Le grand frère.
Le petit frère. Et il y a tellement de choses qu'on a partagées et qui, de toute façon, concourent à la poésie que quand il parle, je n'ai même pas plus droit au chapitre, parce que je pense qu'il défend d'ailleurs mieux la musique que moi. Je n'ai jamais su défendre la musique. Moi, je fais ce que j'aime et ça me suffit. Maintenant, expliquer ça au monde et prouver pourquoi au monde. Pourquoi? Parce que ça me plaît déjà et puis c'est tout. Et je suis ravie d'être là ce soir et merci beaucoup à vous, Omar, pour cette belle continuité. Vivement les 10 ans du train. Mon petit frère, on se dit à samedi. Merci.
Merci. Merci Fatoumata.
Bonjour, merci. Merci pour les témoignages déjà Fatoumata Keita. Robert, merci beaucoup. Omar,
merci.
À toutes et à tous, merci beaucoup. Robert aussi, aujourd'hui je vais être méchant.
Hein?
Je vais être très méchant avec vous aujourd'hui.
Bismillah.
Omar, vous me le permettez. J'ai 10 questions pour Robert.
10.
Et je ne veux pas de commentaires. Je vous pose la question, vous répondez instantanément. Je vais découvrir un autre visage de Robert aujourd'hui.
D'accord.
Est-ce qu'on est prêt?
On va essayer.
Merci. Siaka Koulibaly. Robert, le seul mot de la langue française qui résume votre souvenir de la rentrée littéraire. Un seul mot, pas deux.
Écrivain.
Robert, la mauvaise émission de train littéraire.
Zéro.
Robert, de tous vos poèmes, lequel préférez-vous?
Tous.
Robert, la phrase que vous aimez le plus de la langue française.
Insensé qui croit que je ne suis pas toi, Victor Hugo.
Votre citation favorite.
Insensé qui croit que je ne suis pas toi.
Le poète pour qui vous avez la plus grande admiration.
Fatoumata Keita.
Merci. Le poète que vous détestez le plus au monde.
Fatoumata Keita.
Votre vers préféré.
Laissez-moi parler jusqu'à fendre ma bouche.
Bien.
Surtout en ces temps qui courent.
Avant-dernière question. Qu'est-ce que vous détestez le plus au monde chez Fatoumata Keita?
Et Allah.
C'est celle que vous détestez le plus.
Mais vraiment deux phrases, pas en une seule phrase.
Non.
En une seule phrase.
Oui.
Une dame qui n'arrive pas à être moderne.
Dernière question. Robert, choisissez entre votre bien-aimé et la poésie.
Ma bien-aimée, c'est elle, ma poésie.
Ah, voilà. Non, mais merci.
Mais c'est méchant, ça. Hein, sans commentaire.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci beaucoup hein, de nous avoir gratifiés de tous ces dont vous connaissez en matière de poésie. Alors, moi, je me dis que la poésie ou tous les genres littéraires ont une importance en fonction de chaque époque. Alors aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit est une époque, à mon avis, morose, où le monde traverse des crises multidimensionnelles, institutionnelles, politiques. On assiste partout à des guerres, des massacres. Et vous venez de dire que la poésie, pour vous, c'est le beau. Vous aimez voir tout en beau. Est-ce que le défi principal de la poésie au XXIe siècle, est-ce que la poésie, la musique, la musicalité poétique serait-elle bercée une âme qui vit au milieu des décombres et des bombardements? Merci beaucoup.
Wow. Ousmane Mohamed, c'est le directeur de publication du journal Le Point.
Le coup de poing.
Ouais.
On dit que les femmes aiment les poètes. Les poètes aiment les femmes.
Ouais.
Jusqu'à quand toi, tu continues à aimer les femmes?
D'accord.
On continuera à aimer les femmes.
D'accord. Merci.
Bonsoir tout le monde. Et je suis Mohamed Ousmane Cissé, et président du club des lecteurs de l'École normale supérieure de Bamako. Et je vois qu'aujourd'hui, Robert Dissa et Fatmata ont été à l'honneur de ce train littéraire. C'est pour un peu témoigner. Et quand il parle de la poésie de Fatmata, par exemple, ce n'est jamais fini. Je rappelle que le docteur Koma, Karim Koma de l'INSIP, a donné un extrait de ce recueil-là en examen à ses élèves, je me rappelle, l'année passée. Toujours pour promouvoir la poésie malienne de façon générale et celle de Fatmata Keita. Maintenant, j'ai une question très simple peut-être à Robert Dissa. Vous avez bien dit que vous étiez celui-là là qui a commencé, n'est-ce pas, la présentation du train littéraire, mais par la suite, et c'est le tour de Traoré. Maintenant, et je me demande pourquoi vous avez laissé la place à Traoré. Est-ce qu'il y a une raison? Voilà, c'est
très
la
bonne question.
Et dire aussi peut-être une contribution. Je suis très content quand Robert témoigne de ce qu'il a fait avec Fatmata. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Souvent, il est rare de voir souvent des gens dire que c'est tel ou tel qui m'a rendu ce que je suis, ou qui a fait de moi ce que je suis ainsi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, faire ça vraiment, c'est à saluer. Et un dernier élément, lorsque vous parlez de poésique, voilà, ça semble un néologisme, un mot valise, n'est-ce pas?
Néologisme.
Voilà, c'est un néologisme.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Voilà, donc il faut songer à répertorier ça dans le dictionnaire français. Merci.
On l'espère.
Vas-y, on va donc. Moi, je n'ai pas pu retenir la question de Almadan, hein. Je ne sais pas trop, je n'ai pas noté.
C'est-à-dire que vous la poésie dans un monde si trouble. Voilà. À la musique, la poésie. Voilà, la poésie, de façon générale, dans un monde si trouble, est-ce que l'appel à l'amour peut être entendu pendant que tonnent les bombes? C'est ça. D'accord. Alors, moi je dirais oui, pour deux raisons. Parce que pour moi, il y a bombe quand il y a désamour. C'est parce qu'il n'y a plus amour qu'il y a bombe. Et ce n'est pas parce qu'il y a bombe qu'il faut désespérer de l'être humain. Et la seule façon d'avoir foi en l'être humain, c'est l'aimer et l'inviter à l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour du prochain, eh bien, il n'y aura que des bombes. Voilà.
Très bien. Alors, la question de notre confrère, hein, il dit les femmes aiment les hommes aiment les femmes.
Les poètes.
Les poètes, voilà.
Les femmes aiment les
jusqu'à
poètes.
Quand M. Robert Adama dit ça, continuera à aimer les femmes. C'est bien ça.
Il faut que je précise. Sol Mohamed, il est touré, c'est mon tonton. Je l'ai invité, il est venu. Vraiment, merci tonton. Merci d'être là. C'est le directeur de publication du journal Le Point. Le Point comme coup de poing. Voilà, lui donne des coups de poing. Tonton, en fait, tant que je respire, j'aime les femmes. Tant que je respire, j'aime les femmes. Tonton, moi, je ne sais pas pourquoi. En chaque femme, je vois quelque chose qui m'attire. En chaque femme, je vois quelque chose qui me plaît. Soit une taille fine, soit une voix délicieuse, soit une finesse qui est quelque part, je ne sais pas. Tonton, je les aime, les femmes. Voilà, c'est moi.
Point barre. Il les aime, merci. Alors, la dernière question, c'était si c'est, voilà, le choix, en tout cas, pourquoi avoir opté de partir du train?
Ah oui. Oui. Et en fait, je ne sais pas si vous suivez l'évolution des émissions audiovisuelles. La règle, généralement, c'est les 5 ans, 6 ans. Après 5 ans, 6 ans de présentation d'une même émission,
la coutume veut qu'on laisse l'émission à un sang beaucoup plus frais. Et comme entre-temps, on aura mûri d'aller vers d'autres aventures, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour cela que je me suis dit, bon, après avoir reçu quoi, au moins, imaginez 12 sinon 15 auteurs l'année, et sur 8 ans, ça te fait plus de 100 auteurs à bord du train avec le même concept et tout. J'ai apporté quoi d'autre? Mais un sang beaucoup plus frais est là, et vous êtes là. Voilà, depuis qu'Omar est là, il y a plus de jeunes. Quand nous, on est là, c'est beaucoup plus d'adultes. Voilà, donc déjà, le train gagne, ne serait-ce que par le fait d'avoir réussi à amener les jeunes à s'intéresser davantage au train littéraire. Donc moi, j'ai juste vu que je ne peux plus rien apporter. Voilà, j'ai tout donné de moi au train, et il était temps de partir. Je suis comme ça. Moi, partout où je vais, je m'en vais. Quand je vois que je ne peux plus rien apporter, je m'en vais. Moi, je suis quelqu'un qui préfère les défis. Commencer quelque chose, tout de suite, dites Robert, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, c'est déjà fait par Robert, croyez-moi. Mais une fois que j'arrive à relever les défis, bref, tant que moi, je n'ai pas l'adrénaline qui monte là, voilà, je ne me sens pas utile. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit, bon, c'est devenu trop routinier pour moi, donc que quelqu'un d'autre vienne, quoi. Voilà, et je suis heureux que ce soit Omar.
Merci infiniment, Monsieur Robert Adama Dissa. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Un poète, c'est toujours beau de l'avoir autour de lui, mais c'est quand même pas évident de le laisser sans déclamation, Robert Adama Dissa.
Ouais. Vous voulez une déclamation?
Oui.
Eh bien, pour faire plaisir à mon tonton qui veut savoir jusqu'à quand je vais aimer les femmes, voilà, pour faire plaisir à toutes ces beautés qui sont là, et les hommes vont penser que... Quand je dis les beautés, les hommes vont penser qu'ils ne sont pas concernés. Alors qu'ils sont beaux.
Applaudissez hein? Pour vous alors.
Voilà, je parle de toutes les beautés.
Allez-y.
Mais ce poème, il est spécifique. Hein? Il est spécifique qu'on ne me demande pas c'est à qui. Je le dédie à qui, qu'on ne me pose pas cette question. D'ailleurs, la scène des questions, c'est fini là. Ok. Omar, je regarde vers où? La caméra. Est-ce que je pourrais?
Allez-y.
Amsen, enveloppe dorée. Te baignant dans le parfum sur du velours, toujours couverte de perles, tes yeux ne verront que fleurs. Les étoiles de l'amour qui illuminent tes beaux yeux éclairent ma vie. La douceur de ta voix à mon âme donne ses plus belles mélodies. Et quand dans la finesse de tes pas tu me viens, ma vue obstruée, mes rimes envolées, mon être tout entier frissonne et je ne peux à nouveau te regarder que quand tu passes. Te regardant aussi de dos, une irrésistible envie de te suivre s'empare de mon être et je ne deviens alors que l'ombre de moi-même. Regarde, comment fais-tu pour être si belle, si pure? L'élégance que tu incarnes, la grâce qui t'habille, la douceur que tu propages. Et rien qu'à l'idée de te toucher, je me laverai 7 fois les mains. Oh beauté, j'irai au pays des merveilles. Pour toi, j'y cueillerai toutes les beautés. Partout où tu respireras, pleuvront des parfums. Tu es né pour être aimé, mais surtout pour être adoré. Je t'aime.
Merci. Nous vous aimons. Merci infiniment, Monsieur Robert Adama Dissa. Un dernier mot à l'endroit du public, aussi à l'endroit de ceux qui nous regardent sur Djoliba TV News, Monsieur Robert Adama Dissa.
Vraiment, je salue tout le monde. Tout le monde venu à l'enregistrement de ce train littéraire. Vraiment, je dis à toutes et à tous, merci et puis amine rombolo quoi. Voilà.
Voilà, merci infiniment à vous, mesdames et messieurs, d'être sortis hein, pour la cause de la littérature, pour la cause du poète, pour la cause du plusicien. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aborder ce sujet. On aurait quand même voulu, M. Robert Adama Dissa, mais ce n'est que partie remise. Nous en croire qu'il y a d'autres plateaux qui nous attendent autour des, en tout cas, pour parler de vos actualités, hein, parce que ça ne finit pas avec Robert Adama Dissa. Tant que Robert vit, c'est des défis. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous présenter ce premier numéro de votre émission, Le Train Littéraire, avec un invité de marque, le tout premier présentateur du Train Littéraire. C'était le 28 juillet 2016, Robert Adama Dissa. Ce fut un plaisir. Le cocktail, c'est tout à l'heure, est en bas. Allez, à mois prochain pour le prochain train. Au revoir.
Merci.